Cette merveilleuse grâce, un merveilleux privilège de pouvoir nous approcher librement de Jésus, bien sûr, et d'avoir cette assurance d'être entendu, considéré. Seigneur, accueille la prière, il entend, il écoute, il agit avec la prière, elle est précieuse et il la recueille bien évidemment. Et on sait, bien de la parole, que en son temps, ce que Dieu fait est parfait. Amen.
Amen.
On va ouvrir ensemble le livre de l'Apocalypse pour terminer ce moment ensemble. On va passer dans notre partie maintenant étude biblique. Et comme vous le savez, là, sur ces quelques mardis, puisque notre thématique générale des dimanches, c'est l'Église, une Église selon le cœur de Dieu, j'ai à cœur d'approfondir et de regarder avec vous le mardi soir les Églises, les lettres que Jean a écrites aux Églises de la fin des temps, Apocalypse chapitre 2 et 3. Nous, on va ouvrir ce soir le chapitre 3, on va prendre le verset premier. Ces Églises, on doit le comprendre, sont des types d'églises qui ont toujours existé et qui existeront de plus en plus. Le message que contiennent ces lettres ont toujours été d'actualité et seront de plus en plus d'actualité au fur et à mesure qu'on va s'enfoncer dans la nuit et dans la fin des temps. Et on s'aperçoit, on a vu déjà Éphèse, Pergame, Thyatire, on s'aperçoit que à chaque église, le Seigneur délivre un message spécifique. Parce que ce message, la façon dont le Seigneur se présente déjà correspond à une facette de sa personne qui manque à l'église. Et puis, la façon dont il parle sur un point ou un autre, il met en évidence les points, ce qui est bon dans une église, mais il met en évidence les points sur lesquels l'église doit être vigilante. Et parfois même, pour ne pas dire souvent, se repentir sur les sept lettres, sur les sept églises, cinq, quand même cinq reçoivent un appel précis, urgent même, on va le voir ce soir, à la repentance, et on voit que des églises ont réellement besoin, par moment, de se ressaisir. On a parlé d'Éphèse, on a parlé de Pergame, on a parlé de Thyatire, ce soir on parle de Sardes. J'ai volontairement écarté Smyrne et Philadelphia, qui sont des églises auxquelles le Seigneur ne fait aucun reproche, on les étudiera après. Et quand on garde simplement les cinq églises auxquelles le Seigneur fait un appel à la repentance, Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée, on discerne en deuxième lecture, on voit un engrenage destructeur. On voit que l'Église, quand elle ne réagit pas, l'Église s'enfonce et chaque Église à laquelle le Seigneur s'adresse est pire que la précédente. Et tout commence avec Éphèse, qui était une Église en apparence impeccable, mais Éphèse, elle a un sérieux problème, tout est impeccable en apparence, mais elle a abandonné son premier amour. Et le Seigneur est clair, quand on l'aime, on garde sa parole. Et comme Éphèse a un problème avec l'amour qu'elle doit à son Seigneur, comme par hasard, l'Église qui est juste derrière, c'est Pergame. Et viennent déjà les problèmes doctrinaux, et avec les problèmes doctrinaux commencent à venir des problèmes de péché. Et puis ensuite, on s'enfonce, parce que Thyatire, qu'on a vu la semaine dernière, avec l'esprit, l'état d'esprit de Jézabel, est beaucoup plus grave, parce que là, on n'est plus seulement avec les Nicolaïtes, avec Balaam, là, on a affaire à l'esprit de Jézabel, on est dans des dimensions de séduction, d'impudicité, et puis ce soir, quand on voit qu'une église ne réagit pas, ne se repent pas et ne se remet pas sur les rails au moment où le Seigneur lui demande, les églises s'enfoncent et on arrive à Sardes. Et Sardes, c'est l'hypocrisie religieuse. Abandon du premier amour, mélange doctrinal, séduction et impudicité, hypocrisie religieuse. Et la semaine prochaine, on verra la Odyssée. Le Seigneur n'est même plus chez lui, ils l'ont mis à la porte. C'est inconnu, et pourtant, c'est clair, ça existe. Alors ce soir, on regarde ça, on va voir ce que le Seigneur leur dit, et on va s'apercevoir quand même qu'à chaque église, si elles reçoivent un appel à la repentance, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Si le Seigneur leur parle, C'est parce qu'il veut encore les sauver. C'est parce qu'il y a encore, même dans des situations très inquiétantes, oui, il y a encore une possibilité. Il y a encore des appels de grâce. La repentance est un appel de grâce. Alors ce soir, on regarde ça ensemble, Apocalypse chapitre 3, les versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Il est question de la parole là, dans le contexte. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Bien sûr, on n'est jamais digne par nous-mêmes. Hein. C'est le Seigneur qui, dans sa grâce, nous a rendus dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ouf. Ouh, ça commence à être chaud quand le Seigneur commence à dire des choses comme ça. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. L'église de Sardes, après Éphèse, après Pergame, après Thyatire, est une église qui, elle aussi, s'enfonce. C'est une église qui est en sérieux danger, qui est très inquiétante, son état est préoccupant, parce que c'est une église qui cultive une apparence de vie, mais qui s'enfonce en réalité dans une hypocrisie religieuse notoire. Verset 1er, le Seigneur leur dit, lui dit à cette église, je connais tes œuvres. Quand on regarde les autres lettres, on s'aperçoit que à chaque fois que le Seigneur faisait le bilan, il y avait toujours de bonnes choses. Le Seigneur prend à chaque église le temps de souligner ce qui va bien, ce qui est bon. Le Seigneur n'est pas juste là pour faire des reproches. Le Seigneur, quand il y a quelque chose à dire, il le dit dans l'amour. L'amour dit la vérité est dite dans l'amour, dans un but salutaire, mais le Seigneur prend aussi quand même le temps de bien relever les points qui sont positifs dans le bilan de l'Église. Et là, par contre, il n'y a rien. Je connais tes œuvres. Ici, le Seigneur, malheureusement, n'a pas bonne chose à dire, si encore. J'ai cherché un petit peu dans la version originale, j'ai gratté pour voir s'il ne manquait pas un mot dans nos traductions. Si encore le Seigneur avait pu dire « Je connais tes bonnes œuvres », s'il avait pu dire « agathos » en grec ou « kalos » en grec, c'est-à-dire des œuvres honorables, des œuvres excellentes, des œuvres précieuses, comme par exemple quand il est dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres », il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions, de bonnes œuvres, des agathos et ergon, des œuvres sont honorables, qui sont excellentes. Quand Paul dit à Timothée, combat le bon combat, il lui dit, tu combats ce kalos combat, ce combat qui est bon, c'est-à-dire qui est précieux, qui est supérieur, qui est éminent. Et j'ai cherché, je me suis dit, peut-être que le Seigneur a dit, je connais tes bonnes œuvres. Est-ce qu'il y avait kalos? Est-ce qu'il y avait agathos? Rien. Rien du tout. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Et tout de suite, au verset 2, il leur dit, je ne les ai pas trouvées parfaites devant mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Seigneur? Ici, il ne s'agit pas pour le Seigneur d'être super exigeant parce que ce qui est fait n'est pas suffisamment bien fait. Non, non, il ne s'agit pas de perfection au sens de l'exécution. On sait très bien que tout ce que l'on fait pourrait être fait mieux. On peut jouer mieux, on peut prêcher mieux, on peut témoigner mieux, on pourrait prier mieux, je pourrais prêcher mieux, on peut tout faire mieux, mais il ne s'agit pas de perfection dans l'exécution des œuvres. Le Seigneur n'est pas en train de pinailler, pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas au sens où on ne commet jamais d'erreur. On peut toujours faire mieux, tout est perfectible, et le Seigneur le sait, ce n'est pas le problème. Et quand il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu, la pensée c'est, les œuvres ne me satisfont pas. Tes œuvres, elles ne me comblent pas. Tes œuvres, elles ne me satisfont pas. Elles ne me servent pas. Tes œuvres n'ont pas de valeur pour moi. Ce que tu fais, ça ne vaut rien à mes yeux. Pourquoi? Parce que tout ça, en réalité, la pensée de fond, tout ça, en réalité, c'est la façade. Tu es en train de lustrer la vitrine. Et moi, je voudrais te parler de ce qu'il y a dans le magasin. Tu es en train, comme le Seigneur Jésus disait aux pharisiens, tu es en train de lustrer l'extérieur de la coupe. Mais à l'intérieur, moi, je vois qu'il y a plein de rapides. Et tu es en train de t'enfoncer, Sardes, dans cette hypocrisie religieuse. Tu cultives une vie d'apparence, de façade. Tu es en train de blanchir le sépulcre. Mais à l'intérieur, c'est la mort. Et quand le Seigneur dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort, il emploie bien le mot nécros en grec. Et nécros, bah, qui a donné notre rubrique nécrologique. Il s'agit de bien, bien de gens qui sont spirituellement morts, qui sont arrivés à ce point où, à force d'entendre des appels réitérés et de ne pas se repentir, de ne pas régler ce qui est à régler au moment où Dieu donne la grâce de pouvoir le régler, eh bien, au fur et à mesure, l'Église s'enfonce. Puis on a la culture de l'apparence. On met des masques, on fait comme si. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Enfin, si. Le Seigneur montre à l'intérieur, il y a de la souillure. L'encéphalogramme est plat. Il n'y a pas la vie. Tu n'as plus ma vie. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu as l'apparence de la vie. Tu en as la renommée. Tu en as la réputation. Oh, certainement. Certainement que l'église de Sardes devait avoir une réputation dans la région. Parce que quand on regarde une carte d'Asie mineure, la Turquie actuelle, les églises sont pas très loin les unes des autres, hein, dans ce secteur-là. Puis les autres églises devaient certainement entendre parler de Sardes, elles devaient être impressionnées parce que certainement qu'elle avait un super programme, des très bonnes activités, et puis tout ce qu'elle faisait, excusez-moi de venir en mettre un petit peu plein la vue à tout le monde, mais le Seigneur leur dit, mais ça c'est la vitrine. Mais moi, quand je regarde à l'intérieur, j'aime pas ce que je vois. Alors tu peux jouer la comédie, tu peux faire semblant, tu peux, eh oui, tu peux réussir à tromper les autres églises. Tu peux réussir à tromper ton frère, ta sœur, tu peux tromper ton époux, ton épouse, tu peux te faire passer pour, tu peux tromper le pasteur, il n'a pas tous les discernements, il n'a pas tout, évidemment, mais le Seigneur, lui, il voit à l'intérieur. Il dit, tu vois ça, moi je vois à l'intérieur, tu passes pour être vivant, tu as une vie magnifique, mais à l'intérieur, je sais ton véritable état. Et ton état, et le Seigneur n'est pas en train de la casser, il n'est pas en train de la juger, il n'est pas en train de la rejeter. Le Seigneur est préoccupé par l'état des cœurs dans cette église. Parce que si le Seigneur l'avait rejeté, je vous garantis, il ne lui écrirait pas Tu peux te repentir et je confesserai ton nom devant mon Père. Donc c'est qu'il y a encore de l'espoir, évidemment. Mais en réalité, là, c'est la mort spirituelle qui est vraiment en train de s'installer dans les cœurs. La réalité de ton cœur, c'est que spirituellement, tu es mort. C'est une église qui avait certainement qui avait la vie de Dieu, mais qui malheureusement n'a plus cette vie. C'est pour ça que le Seigneur se présente. À chaque fois, la présentation, la façon dont Dieu se présente correspond à ce que l'Église avait et ce qu'elle n'a plus. Et c'est pour ça que le Seigneur se présente comme celui qui a les sept esprits de Dieu. Alors évidemment, il n'y a pas sept Saint-Esprits, hein, on est bien d'accord, il n'y a qu'un seul esprit. On a un Dieu trinitaire, un Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parfaitement égal dans leurs attributs et dans leur puissance, leurs attributs moraux, spirituels, métaphysiques aussi, parfaitement égaux, Père, Fils, Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais il y a un seul Saint-Esprit, évidemment. Il n'y en a pas sept, mais sept, c'est pour désigner la plénitude de l'Esprit de Dieu, la plénitude, la complétude de tout ce qu'il est, tout ce qu'il est, est parfait. Tout ce qu'il a est parfait. Dans sa nature, dans ses attributs, dans ses œuvres, égal au Père, égal au Fils, pour désigner la plénitude de vie de l'Esprit. Sardes est une église qui avait la vie de Dieu. Elle avait la vie de l'Esprit en elle, puisque le Seigneur se rappelle à elle comme celui qui a la plénitude de l'Esprit. Sardes, malheureusement, est passée à côté de l'essentiel. Elle est en train de vivre, et c'est logique que Dieu se présente comme celui qui a les sept esprits de Dieu, parce qu'elle est en train de vivre l'inverse. Elle est dans une mort religieuse, elle s'enfonce dans une hypocrisie religieuse qui conduit à la mort, alors que pendant un temps, certainement, elle avait la vie de Dieu, elle avait la vie de l'Esprit et de la parole. Et cette vie, on le sait, ne vient que par le Saint-Esprit, ne vient que par la parole. Je ne connais pas d'autre source de vie. Okay? Amen. Que celle de l'Esprit et de la parole. Il est, c'est lui l'Esprit de vie. C'est lui l'Esprit de vie, indissociable de la parole. Quand on parle de la parole, jamais sans l'Esprit. Quand on parle de l'Esprit, jamais sans la parole. Les deux sont comme deux rails. Esprit, parole, parole, esprit sont réellement indissociables. C'est pour ça qu'il est question de l'Esprit, mais qu'il est question aussi de la parole. On en parle dans un instant. Quand le Seigneur lui dit, mais souviens-toi comment tu avais reçu ma parole. Mais il est l'Esprit de vie, indispensable à nos cœurs, à la vie de l'Église. C'est lui qui nous rend vivants. C'est lui qui rend la parole vivante. C'est bien l'Esprit Saint qui convainc de péché. C'est lui qui nous a convaincus en utilisant la parole. Mais c'est par le Saint-Esprit, Jésus dit, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. C'est lui qui nous a régénérés, fait naître de nouveau. C'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui habite en nous, qui vit en nous, qui a fait de nous son temple. Vous êtes le temple, dit Paul aux Corinthiens. Vous êtes le temple de l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. C'est avec lui que nous savons que nous en soyons conscients ou pas. Il vit en nous et nous devons être vigilants et extrêmement attentifs à la qualité de notre. Avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. Quand Paul termine ces deux épîtres aux Corinthiens, qui sont quand même deux pavés, quand même, il y a quand même pardonnez-moi, mais il y a du steak, hein, comme on dit dans l'épître aux Corinthiens, c'est vraiment, les deux épîtres aux Corinthiens, c'est vraiment costaud. L'apôtre Paul termine et dit aux Corinthiens que l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion ou la communication, c'est pareil en grec, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Besoin, désespérément besoin de l'Esprit de Dieu, parce que sans lui, tout est sec, tout est fade. Sans lui, c'est lourd, c'est pesant. Sans lui, c'est de la religiosité. Même la parole. La parole, 2 Corinthiens 3, 6. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et la lettre, sans l'Esprit de Dieu qui va la rendre vivante et qui va me permettre de la comprendre et de la vivre, parce qu'il va me changer, il va agir en moi, il va me transformer. L'Esprit, la parole, l'Esprit, c'est sans lui, la lettre tue. Paul est clair, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Romains, il dit, c'est l'Esprit, c'est la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, parce que la loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En 2 Corinthiens 3, 17, Paul dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est là la liberté. Pas la liberté de faire n'importe quoi, sinon la grâce serait une grâce permissive, mais ce n'est pas le cas. Et la liberté, justement, par rapport au péché. Et ça aussi, j'en parle dans une seconde. L'Esprit, la parole, l'Esprit sont tous les deux indissociables. L'Esprit a inspiré cette parole, il s'en sert pour agir en nous. Et c'est pour ça qu'il est aussi question de la parole. Verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, il s'agit de la parole, et garde, Sardes avait reçu la parole par le Saint-Esprit. Dans l'original, quand il est question du verbe recevoir, ce n'est pas recevoir comme quand on reçoit des amis ou des invités. Hein. C'est dans l'original, c'est lambano, c'est-à-dire que ça signifie quand tu as reçu ma parole, littéralement, tu t'es saisi de ma parole. Tu t'es associé à ma parole. Lambano, c'est même un verbe grec que l'on retrouve dans différents passages du Nouveau Testament qui est traduit par se marier. C'est utilisé pour des époux. Donc le Seigneur est en train de dire, il est en train de montrer à cette Église ce qu'elle vivait par l'Esprit et par la parole fut un certain temps. Et il lui dit, mais souviens-toi comment tu avais reçu, c'est-à-dire comment tu avais saisi ma parole. Souviens-toi comment tu t'étais associé, tu t'étais marié avec moi. C'est la même chose dans Jean 1, 12. La lumière, la parole faite chair, j'en dis à tous ceux qui l'ont reçu, qui s'en sont saisis, qui s'y sont associés, qui l'ont saisi, qui se sont mariés avec, tous ceux qui s'en sont saisis, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Donc, on est en train de parler d'une église qui avait réellement une dimension de vie dans la part, qui avait une dimension de vie dans le Saint-Esprit, et qui, malheureusement, alors qu'elle était vivante de la vie de Dieu, qu'elle était animée par l'Esprit, elle avait l'Esprit de vie, elle avait l'Esprit de foi, elle avait l'Esprit de sainteté, parce que quand on a l'Esprit en nous et qu'on en est rempli, bien, toutes les facettes de l'Esprit règnent aussi en nous, avec lui, la foi, la vie, la paix, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, l'Esprit de sainteté, etc., etc. Et par conséquent, cette Église, c'était une Église qui était victorieuse sur le péché. Mais malheureusement, voilà ce que ça m'enseigne, c'est que le jour où l'esprit et la parole ne règnent plus dans le cœur d'un disciple, le jour où l'esprit et la parole ne règnent plus dans les cœurs, dans l'Église, là c'est le péché, c'est le règne du péché qui revient. Logique. Doucement, mais sûrement, petit à petit, combien de temps l'église de Sarde a-t-elle mis à dégringoler? Combien de personnes ont dégringolé? Combien de personnes ont souillé leurs vêtements? Tout ça, on ne le sait pas, mais on sait que petit à petit, doucement mais sûrement, une majorité de l'église, puisqu'il est question de quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements, mais une majorité de l'église, malheureusement, ne cherchait même plus à lutter contre le péché et simplement s'enfonçait derrière une façade d'apparence. Et voilà une église qui a abandonné, je précise. Elle n'a pas perdu sa qualité de vie. C'est une église qui a abandonné la qualité de vie de l'esprit et de la parole. Et qui, malheureusement, ben, au lieu de se repentir, au lieu de revenir à celui qui ne se lasse pas de pardonner, à celui, psaume 130, auprès de qui nous trouvons sans cesse le pardon et la miséricorde en abondance. Voilà une église qui, au lieu de venir chercher le pardon que Jésus, qui est riche en bonté, a acquis à la croix et qui l'a acquis à un prix qu'on ne pourra jamais comprendre, peut-être dans l'éternité, tellement nos mots sont faibles pour comprendre ce que Jésus a supporté, il a payé, il a supporté l'insupportable. Pour que le pardon soit acquis, il n'y a qu'à venir, c'est bête, mais il n'y a qu'à venir par la repentance et la foi et le pardon. Parce qu'il nous l'a acquis. Au prix ultime, mais il nous l'a acquis. Et au lieu de venir, vous avez une énorme majorité de l'Église qui préfère cultiver les arts, avoir un masque. Et puis on cultive les faux semblants, puis lentement mais sûrement, on s'enfonce dans l'hypocrisie religieuse. Et la religiosité, c'est tout ce que Dieu déteste. Pourtant, Dieu a une haine viscérale du péché, parce que sinon, il n'y aurait pas eu la croix. Mais s'il y a une chose que Dieu déteste bien par-dessus tout, parce que la croix est plus puissante que le péché. Par contre, quand on s'enfonce dans l'hypocrisie, on s'enfonce dans la religiosité, ça, c'est quelque chose que Dieu a véritablement. L'absence de repentance. Le fait de cultiver une apparence. Qui se déguise en ange de lumière? Qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas? Qui se déguise en brebis quand c'est un loup? Qui se fait passer pour alors que c'est un serpent? Eh bien, tout ça rappelle la nature du diable, la nature de l'ennemi. C'est pour ça que Dieu a réellement en horreur la religiosité. C'est pour ça que Dieu dit, aimez Jacob. Jacob, c'était un morceau. Il fallait vraiment avoir une vision et une puissance pour en faire quelque chose de ce bonheur-là. Mais j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Ah, c'est bien, Ésaü, peut-être pas. Non, mais Ésaü, c'est un système. Je déteste Caïn, je n'aime pas, j'ai haï Ésaü, je n'aime pas Saül, parce que derrière tous ces gens-là, ce sont des types du propre juste, de la religiosité, un profond mépris de la grâce. Alors du coup, c'est ce que Dieu a en horreur, il le déteste. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Vous êtes séparés de Christ. Chaque fois que vous cherchez une justification dans la loi, vous qui couriez si bien, qu'est-ce qui a bien pu vous arrêter? Vous aviez commencé, Galates, êtes-vous devenu inconscient? Vous aviez commencé par l'esprit, allez-vous finir maintenant par la chair? Chaque fois que vous péchez, vous cherchez une justification dans la loi, au lieu de vous repentir, quand vous cherchez une justification dans la loi, Vous êtes séparé de Christ.
Et bien ça, c'est la mort.
Vous êtes déchu de la grâce. Et le Seigneur montre maintes fois dans sa parole que ça ne sert à rien de camoufler le péché. De toute façon, le Seigneur le savait avant même le péché. Il avait vu. Adam et Ève ont essayé de camoufler leur péché. Ça n'a pas marché, évidemment. Ça ne sert à rien de le dissimuler, ça ne sert à rien de se justifier. Ah, mais quand même, Seigneur, tu sais que je jeûne deux fois la semaine, tu sais que je donne la dîme de tous mes revenus, et alors ça fait que je ne suis quand même pas comme ce publicain, comme ça. Ah, Jésus dit, c'est le publicain qui est reparti justifié dans sa maison, mais pas le pharisien. Parce que derrière, il y a tout un système que Dieu a en horreur. Vous savez, ça m'arrive régulièrement de dire ça à des bien-aimés dans les entretiens. La vie avec Dieu, ce n'est pas le baccalauréat. La vie avec Dieu, ce n'est pas une notation, ce n'est pas la moyenne de ce qui va ou ce qui ne va pas. Quand je passe le bac, si je suis nul en maths, si j'ai 2 en maths, mais que heureusement j'ai eu 18 en anglais, ça me fait quand même 10 de moyenne. Donc, ça passe. Sauf qu'avec Dieu, ça ne marche pas du tout comme ça. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. C'était Éphèse. 20 sur 20, 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 20 sur 20. Élève impeccable, 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 impeccable. Mais, là, pourquoi le Seigneur fait comme ça? Parce que ce sont des points qui mettent l'Église et qui mettent le cœur des croyants réellement en danger. Et pour ce point, le Seigneur sait pertinemment que sur ce point-là, ça peut être fatal. Alors ça peut paraître dur, j'en suis conscient, les lettres aux Églises, il y a des messages durs qu'il faut vraiment comprendre, mais qu'il faut comprendre dans l'esprit de la grâce. Et Dieu vient dans son esprit de grâce en disant une vérité par amour pour un bien salutaire. Et il vient et il veut absolument que ce point change. Parce que tu peux être bonne sur tous les points, Église de Sardes. Mais sur ce point, tu ne te rends pas compte que tu es en sérieux danger. Voilà pourquoi, effectivement, Dieu, oui, on peut le dire, est exigeant, mais c'est une exigence sanitaire. Malheureusement, Sardes ne voulait plus exposer son cœur, son péché à la lumière divine. Alors du coup, le péché pouvait proliférer, il avait le champ libre. On ne voulait plus le confesser à Dieu, et on ne voulait pas reprendre, on ne voulait pas reconstruire une vie avec Dieu, alors que qu'est-ce qu'on a à faire? Confesser, demander pardon. Le Seigneur me dit, si tu me demandes pardon, je suis fidèle et juste, te pardonner et te purifier de toute iniquité. Est-ce qu'on peut faire plus simple que ça? Je crois qu'il n'y a pas. Et ensuite, une fois qu'on a demandé pardon, il faut évidemment reconstruire. On reconstruit une authentique communion avec Dieu. J'ai compris ça il y a quelques années quand j'étais en région parisienne. On avait fait, quand on était jeunes mariés, les enfants venaient de naître, ils étaient petits, on avait fait construire une maison en Seine-et-Marne. Et puis, j'avais fait énormément de choses de mes propres mains. Et puis, j'avais un joli bout de terrain quand même. Puis, malheureusement, le terrain était dans un état lamentable. Il y avait des mauvaises herbes, etc. On l'avait fait construire. Puis après, je prends mon courage à deux mains et puis je commence à retourner. J'arrache les racines, il y avait du chien. Et je descends, j'arrache le terrain, je retourne avec les mains. Et puis là, c'est propre. Enlever tout est facile, on enlève toutes les mauvaises racines. Et oui, bien sûr. Et puis, je ne m'occupe pas du terrain. Je ne m'occupe pas du terrain. Parce que le terrain, il est clean, il est nickel. Donc, je vais faire autre chose. Je ne m'occupe plus du terrain. Trois, quatre semaines après, en plus, c'était le printemps. J'arrive, je me lève un matin. Il y en avait partout. Je dis, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est pour ce terrain qu'on m'a vendu? Il y a un plan des trucs la nuit, c'est quoi ce truc-là? Alors je recommence, je reprends mon courage à deux mains, j'arrache, j'enlève les racines, je retourne la terre, je refais tout bien, je revérifie. J'avais au moins 200-300 mètres carrés à faire, je ne pouvais plus, mais je refais tout bien.
Le terrain est nickel. Je suis content. Je suis plus heureux des Parisiens. Et là, je vais faire autre chose. Et quand je reviens 3-4 semaines après, je dis, mais c'est quoi ce... Je comprends rien. Puis mon voisin, il me voit et puis il me dit, alors, vous en sortez pas avec votre terrain, monsieur Vaillant? Je dis, ben non, ça fait 2 fois, 3 fois, à chaque fois. Mais ça revient, je comprends pas. Et vous avez un beau terrain et moi, je comprends pas. Il me dit, mais monsieur, une fois que vous avez enlevé les mauvaises herbes, il faut semer du bon grain. Il faut semer. Puis une fois que vous aurez semé, parce qu'il ne faut pas laisser la terre vide, si le terrain est vierge, si le terrain reste vide, forcément le chien d'en va revenir. Il faut occuper le terrain avec une bonne semence. Ça m'a fait tilt dans ma tête spirituellement. J'ai dit, c'est fort quand même, quelle image. Puis il me dit qu'une fois que vous aurez semé, il faudra l'entretenir. Oh, sans blague, le Parisien moyen, c'est, il faut semer, il faut entretenir. Oui, il faudra arroser, il faudra tailler, il faudra enlever. Mais il me dit, mais une fois que vous aurez mis une bonne semence et que vous entretiendrez, vous n'aurez plus besoin de passer des heures en lutte pour enlever des énormes racines, etc. Non, de temps en temps, vous aurez un petit truc, vous arrivez, paf, 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 ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. Beaucoup de chrétiens viennent devant Dieu et disent, Seigneur, je te demande pardon. Et Seigneur, pardon, amen. Et derrière, il ne faut pas se contenter que le terrain ait été dégagé. Derrière, il faut semer. Il faut l'esprit, il faut la parole. Derrière, il faut construire. Quand on a une période, malheureusement, d'égarement avec Dieu, il ne s'agit pas de revenir en disant, Seigneur, je reviens à toi, je te demande pardon. Bien sûr qu'il me reprend. Il me reprend tout de suite et il me prend dans ses bras. Il me prend son cœur. Et oui, bien sûr, amen. Mais il faut reconstruire. Parce que sinon, une mauvaise racine, le chien dent revient. Il n'y a pas de bonne chose pour occuper le terrain de mon cœur. Alors, il y a des péchés qui reviennent. Et là, on est surpris, on se dit, oh là là, depuis le temps que je suis chrétien, comment est-ce que je suis capable de... Comment c'est possible qu'il s'est... Et puis lui, il avait l'air si bien, puis d'un seul coup, excusez-moi, il a claqué. Et comment ça se fait, puis d'un seul coup... Mais... Ah, non, 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 attendez, attendez, attendez. Il y a les apparences, il y a le cœur. Il faut absolument, il ne s'agit pas de dire « Seigneur, je reviens à toi, je te demande pardon. » Oui, amen. Mais derrière, il faut construire, derrière, il faut reconstruire, derrière, il faut semer, derrière, il faut entretenir. Parce que sinon, ça laisse le champ libre au péché, parce que le principe, c'est que la nature a horreur du vide. Un terrain ne peut pas rester vide. Il faut qu'il y ait forcément quelque chose, tout le temps. Et malheureusement, pour ça, c'était ça, parce qu'on n'entretenait plus. On n'entretenait plus la vie de la parole, on n'entretenait plus la vie de l'esprit. Et du coup, cette église arrive à du sérieux de problème de pureté. Il y a des racines, le chien d'or qui revient. Et le Seigneur, malheureusement, fait ce constat, mais c'est quand même un constat plein d'amour. La vérité est dite dans l'amour. Tu as cependant quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y avait quand même quelques personnes dans l'église qui avaient maintenu une vie de pureté et de sainteté avec le Seigneur. Mais malheureusement, combien on le sait, mais une grande majorité, visiblement, avait sombré dans le compromis. Je termine, c'est ma conclusion. Même pour une église comme Sardes, déjà avec Thyatira la semaine dernière, quel message de grâce de la part du Seigneur de dire, j'ai laissé du temps pour qu'il se repente. Et là, ici, encore un appel à la repentance, certes, le constat, la vérité objective fait mal. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que même pour eux, rien n'était perdu. Tout n'est pas perdu, il est encore temps, puisque justement il y a un appel à la grâce, il y a une possibilité de retour, puisque Jésus lui parle encore. Vous avez des chrétiens, puis les 2-3 mois, ils se mettent à douter de l'ascension. Est-ce que le Seigneur va encore me pardonner? Est-ce que c'est leur souffle? Mais si tu es là, si le Seigneur te parle, si tu entends sa voix, si il y a un appel de grâce, il y a un appel de grâce, mais c'est qu'il y a encore une possibilité de salut, il y a une possibilité de changement, il y a une possibilité de retour. Et c'était certes, tous ces textes
On ne cautionne pas le péché, on est d'accord. Hein. On ne cautionne pas la religiosité, c'est mortel, on a compris. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il m'encourage quand même. Je me dis, Seigneur, quelle dimension de patience, quelle dimension de grâce. Si tu es venu frapper à la porte de leur cœur, si la semaine prochaine on va le voir, alors que les Laodicéens t'ont mis à la porte, ils t'ont mis à la porte de ta propre église. Et que toi, tu prends encore le temps de venir, de rester derrière la porte, humilié encore à l'extrême et de frapper et de dire, je me tiens et je frappe encore. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souffrirai avec lui. Extraordinaire, notre Seigneur. Donc, il y a aussi une dimension d'encouragement. Et je vois une église, je vois des disciples qui malheureusement ont été très loin depuis très longtemps. Et par la grâce de Dieu, il est encore possible de... Verset 2, le Seigneur lui dit, affermis le reste qui est prêt de mourir. Verset 5, celui qui vaincra, c'est encore possible. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Oui, c'est... Il y a les deux. Il y a l'appel solennel, c'est imminent, parce que qui est prêt de mourir, c'est-à-dire tu es sur le point de tout perdre. Si tu continues, et forcément, si tu vas finir par m'abandonner, si tu m'abandonnes, j'effacerai ton nom du livre de vie. Affermis le reste qui est prêt de mourir, parce que du coup, ce n'est pas encore totalement mort pour toi. Peut encore vaincre. Ne m'effacerai pas ton nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père. Et là, c'est autant un avertissement que c'est en réalité aussi un encouragement, un avertissement, parce que la situation est sarde, beaucoup plus sérieuse que tu penses, beaucoup plus grave. Tu es en réel danger. Ce qui est prêt de mourir, si tu ne réagis pas très vite par une sérieuse repentance, par un profond retour, si tu ne reconstruis pas avec moi, tu vas bientôt tout perdre. Mais ce n'est pas encore mort. Tu peux encore te repentir, tu peux trouver la vraie vie. Parce qu'il est aussi celui qui n'éteint pas l'union qui fume. Ce n'est pas dans l'Apocalypse, mais c'est dans la parole, dans l'Ancien Testament, vous le savez. Il est aussi celui qui n'éteint pas, pardon, l'union qui fume. À Sardes, il y avait beaucoup de fumée. Et pendant le parfum, il y avait plus beaucoup de fumée. Il y avait beaucoup de fumée. Mais même en voyant cette fumée qui devient âpre, une odeur nauséabonde dans l'arrêt de Dieu. Il n'est pas été un celui qui s'est laissé. Il l'a appelé. Il l'a appelé encore. Il est celui qui est un qui fuit. Dieu, dans sa grâce, appelle, courage, il attire comme il cherche encore à convaincre. Il dit la vérité. Il dit la vérité parce qu'il nous aime. L'amour dit la vérité. Quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité ne vous cerne pas. L'amour dit la vérité. Le sentimentalisme arrange. L'affect essaye de. L'amitié essaye de. Mais l'amour dit la vérité. Et le Seigneur dit à son Église la vérité. Il a passé le scanner, la radiographie. Et puis il est en train de dire, voilà exactement ton état. Voilà où tu en es. Voilà ce qui reste. Mais cette vérité, mon amour pousse à te dire la vérité, mais cette vérité, je te l'ai dite, dans l'amour, dans un but salutaire, parce que tout est encore possible pour toi. Je suis Dieu qui permet encore de vaincre. Amen. Que son nom soit béni. On se recueille un instant pour terminer ce moment. Merci beaucoup.